Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 7, les versets 9 à 17. Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, on avait débuté la semaine dernière, ceux qui ont suivi les leçons, soit sur YouTube, soit en audio sur le site web. On avait commencé la semaine dernière, ce passage-là, on l'avait pas terminé. On avait fait deux points. Ce qu'on va faire cette semaine pour remettre tout le chapitre, pas tout le chapitre, mais tout le passage, on va reviser un peu ce qu'on a vu, de manière à ce qu'on remette tout cela en perspective et qu'on voit un peu l'idée principale que le Seigneur veut nous enseigner dans ce passage-là. On avait vu qu'il y avait trois idées principales dans les versets 9 à 17. La première, c'était qu'il y avait une adoration pour la rédemption qui avait été initiée par l'Église. L'Église, alors, dans les versets 9 et 10, on va voir cela. Et après ça, on a vu qu'il y avait une adoration pour la rédemption qui était imitée. Parce qu'on a vu que ça va commencer par l'Église, mais qu'éventuellement, à l'Église va se joindre l'ensemble des anges qui sont déjà au ciel pour la rédemption eux aussi. Donc, les anges, non seulement les hommes qui sont déjà au ciel vont vouloir louer le Seigneur, mais ceux qui sont les anges vont vouloir se joindre à eux. Quand je dis imiter, donc être initié par l'Église, imité par les anges, et on va voir dans le verset 13 et 17 que l'adoration pour la rédemption a été illustrée. On va regarder tout ça. Ce que j'ai voulu faire la semaine dernière et qu'on va refaire cette semaine, c'est bon, à un moment donné, quand on étudie un livre, de voir le plan d'ensemble du livre, si on veut bien le comprendre. À venir jusqu'à l'heure actuelle, on est en train de terminer le septième chapitre. C'est bon de s'arrêter, de regarder ce qu'on a vu et de voir comment tout ça s'articule, une partie avec l'autre. On avait mentionné dans les leçons précédentes que le livre de l'Apocalypse, on peut le diviser en sept parties. Le chiffre 7 est vraiment omniprésent dans l'Apocalypse. Sept parties. À venir jusqu'à l'heure actuelle, on aurait vu, à la fin du chapitre 7, deux parties. C'est bon de voir ce qu'on a vu et de voir comment le Seigneur est en train de se révéler à travers de tout ça. On a dit tantôt que l'Apocalypse, en anglais, ça s'appelle « Revelation ». Donc, c'est la révélation. Donc, c'est l'Apocalypse, c'est le dévoilement. Revelation, c'est un dévoilement. Un dévoilement d'une personne. Tout l'Apocalypse dévoile la personne de Christ et son œuvre de rédemption. Très intéressant. Donc, le chapitre, la partie 1, si on dit qu'il y a 7 parties, on va regarder quelle partie, c'est à quel chapitre la partie 1. La partie 1, c'était les chapitres 1 à 3. Qu'est-ce qu'on a vu dans les chapitres 1 à 3? On avait vu que Christ se révèle à Jean et il lui montre qui il est, un Dieu tout-puissant, souverain, sage et plein de toutes ses qualités et de ses attributs. Il est en train de se révéler à lui et il est en train aussi dans cette partie-là de parler des églises. Il parle, il veut donner un message aux 7 églises. On se souvient de tout ça, on a tous vu ça. Les 7 églises, qu'est-ce qu'il leur dit? Pour certaines églises, c'était des reproches et aussi il leur disait leurs qualités, mais il leur disait leurs défauts aussi. Certaines églises étaient sans défauts, ou presque. D'autres églises recevaient des réprimandes sévères du Seigneur. Alors, on voit que le Seigneur prend soin de son Église. Peu importe l'état de l'Église dans laquelle elle se trouvait, le Seigneur prend soin de son Église et il corrigeait ce qu'il y avait à corriger chez certains et il louait ce qu'il y avait à louer chez d'autres. Alors ça, c'était les 3 premiers chapitres. Donc, il se révèle au milieu des 7 chandeliers d'or. On avait vu que les 7 chandeliers d'or, c'était 7 églises. La deuxième partie, on a commencé et on est en train de terminer la deuxième partie. La deuxième partie va du chapitre 4 aller jusqu'au chapitre 7. Et il y a un thème dans cette partie-là de la Bible. C'est l'Église qui est persécutée. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder chacun des chapitres 4, 5, 6 pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous enseignait, les grandes idées. On rentrera pas dans les détails, il faudra recommencer. Mais juste les grandes idées. Dans le chapitre 4, chaque chapitre a une idée maîtresse, une idée qui est la principale que le Seigneur développe. Dans le chapitre 4, l'idée principale que le Seigneur veut nous montrer, c'est que tout, absolument tout ce qui se passe sur la terre, dans l'univers, est dirigé souverainement par Dieu depuis son trône. Si vous reliriez le chapitre 4, vous verriez que c'est ça l'idée principale. Tout est dirigé souverainement par Dieu depuis son trône. Le chapitre 5 maintenant, lui aussi a une idée maîtresse. C'est que ça nous présente, quand ça nous présente Dieu ayant un livre dans la main droite qu'il va donner à Jésus pour lui révéler le contenu du livre et pour qu'il l'exécute. Et ça se termine par une louange collective à la fois des anges et des hommes. Cette section-là, le livre scellé de sept sceaux, c'est les décrets divins. Dieu, de toute éternité, a décidé de comment ça se passerait sur toute la terre, de toutes les époques, dans les vies, à la fois des nations et à la fois des individus. Ça comprend nos vies à nous, ça. Ça, c'est intéressant. C'est un chapitre extrêmement intéressant. Donc, le livre nous montre que Dieu est assis sur le trône avec le livre dans les mains. Il le donne à Jésus et le but de lui donner, c'est qu'il soit révélé, qu'on en connaisse le contenu. C'est ça qui est en train de développer, là, qu'on en connaisse le contenu. Et pour qu'il soit exécuté. Donc, dans le livre, il y a les décrets de tout ce qui se passerait sur la terre de toutes les époques, à la fois matériellement et spirituellement, et pour qu'il soit exécuté. Et ensuite, les anges et les hommes qui sont déjà au ciel adorent collectivement. C'est l'adoration collective. Ça, c'est le chapitre 5. Dans le chapitre 6, il y a aussi une idée maîtresse. Vous allez voir pourquoi on fait ça, parce que quand on voit le flot de la pensée divine, c'est beaucoup plus intéressant. Dans le chapitre 6, on voit l'idée principale, c'est l'ouverture des sceaux. Dieu, sur le livre était scellé. Un livre scellé, ça veut dire que les décisions divines, personne ne les connaissait. Dieu est en train de les révéler à qui? À Jésus-Christ, pour qu'il les exécute. Donc, il y a six premiers sceaux qui sont ouverts dans le chapitre 6, sur un total de sept. Très intéressant de voir que quand on arrive au chapitre 7, on arrive, le sixième sceau a été ouvert, mais le septième, lui, n'a pas été ouvert encore. Il va être ouvert juste dans le chapitre 8. Là, on peut se poser la question, pourquoi? Il y en a une réponse à tout cela. Alors, les quatre premiers sceaux, si on veut se souvenir un petit peu qu'est-ce que c'était les chevaux. Un cheval, c'est un animal de guerre. Il y avait des chevaux de quatre couleurs. Il y avait le cheval blanc, qui représentait la personne même de Christ, qui partait pour aller conquérir, pour faire enlever le royaume de Satan, et conquérir son propre royaume. Autrement dit, aller ramasser les âmes qui lui appartenaient au cours des siècles dans les différents pays. Et c'est ça le cheval blanc, le Seigneur qui part pour établir son royaume et dans tous les siècles. Le cheval roux, c'était que le Seigneur savait que quand lui partirait pour établir son royaume, le malin, Satan et tous ses serviteurs se mettraient en travers de sa route, soit pour essayer de stopper, ou soit pour ralentir l'œuvre de Jésus-Christ qui cherche à avancer son royaume. Et le cheval roux, c'est Satan et ses alliés qui se servent de différents outils pour stopper l'avancement du royaume. C'est la guerre et la persécution religieuse. On sait qu'au cours des siècles, n'importe qui a déjà la moindrement de notion d'histoire de l'Église, sait que Satan s'est mis de travers dans la route du développement de l'Église et il a tout fait pour essayer de l'empêcher, de se répandre. Et faut ajouter à cela, les persécutions, c'est pas juste aussi par le malin pour avoir empêché l'Église de grandir. Les persécutions, ça va aussi dans les familles. On le sait, si quelqu'un ne sait pas, moi ça fait 42 ans que je suis chrétien, je peux vous dire une chose, quand on est des véritables croyants et qu'on commence à vouloir partager du Seigneur Jésus-Christ autour de nous, qu'est-ce qui se passe? La chicane dans les familles. La persécution familiale. Donc, elle atteint tout le monde sans exception. Le cheval roux, c'est ça. Le Seigneur, il sait qu'il va y avoir de l'opposition. Nous, quand on essaye de partager l'Évangile autour de nous, qu'est-ce qui se passe? On a de l'opposition. Et le but de ça, c'est d'essayer de nous faire fermer la trappe et qu'on arrête. Mais on n'arrêtera pas. Alors, le cheval noir, lui, c'est l'oppression économique et la famine qui sont utilisées pour freiner la progression de l'Évangile. Et le cheval livide, c'est ça le cheval verdâtre qu'on parle dans l'Apocalypse. Lui, c'est les quatre mots universels qu'on appelle. Au cours de l'histoire de l'être humain, ces quatre mots-là ont touché tous les êtres humains de toute la terre, et c'est pas uniquement les chrétiens. Quatre choses qui sont mentionnées, l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages. Donc, c'est commun à tous les hommes, et ça a été utilisé par Dieu à la fois pour juger les hommes sur la terre, et à la fois pour sanctifier son peuple. Très intéressant. Cinquième sceau, c'était dans le verset 9 à 11 du chapitre 6. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 9 à 11? Tu avais les martyrs qui ont dit à Dieu, « Quand est-ce que tu vas nous venger de notre sang? » On a été maltraités sur la terre, emprisonnés, bafoués, battus, envoyés aux bêtes sauvages. Et ils sont en train de demander à Dieu, parce que ça a l'air, si on regarde ça de l'extérieur, les enfants de Dieu qui se font maganer, qui se font prisonner, ça a l'air de vouloir dire que Dieu est impuissant. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'ils sont en train de dire. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas venger notre sang et que tu vas manifester que tu n'es pas celui que ça a l'air de l'extérieur? De l'extérieur, ça a l'air d'un Dieu qui n'est pas capable de s'occuper de ses enfants. Et là, il y a une réponse dans le verset 11. Là, parce que les autres, ils disent, « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Et là, il y a une réponse au verset 11. La réponse, c'est « Jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fut accompli. » Autrement dit, le Seigneur est en train de dire « tant que tous les martyrs de toutes les époques n'auront pas été complétés, ça va continuer. Jusqu'à quand? C'est jusqu'à l'autre. Et après ça, on avait le sixième sceau. Le sixième sceau est un sceau très important parce qu'il est en train de démontrer qu'est-ce que Dieu va faire. Dans le sixième sceau, c'est la description de ce qu'il va faire pour montrer au monde qu'il va venger ceux qui ont été maltraités. Et là, il utilise des mots qui font vraiment carrément peur. Tout l'univers va participer à la peur que les hommes vont avoir quand le Seigneur va ouvrir le sixième sceau. Et là, il parle du soleil. Il parle de la terre qui va trembler d'une façon. Il parle de les étoiles qui vont tomber. Il parle. Et là, les hommes vont être morts, littéralement, de terreur. Ils vont être terrorisés parce qu'ils vont savoir que le moment du jugement est arrivé et que là, la justice de Dieu va s'établir et que là, ces attributs de justice, de puissance et de tout ça vont se réaliser. Alors, c'est très important. Parce que quand vous regardez ça, ça dit dans le texte que tous les êtres humains vont être terrorisés. Et regardez bien les catégories d'hommes que la Bible dit. Les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, et tous les esclaves et les hommes libres. Autrement dit, il n'y en a pas un qui ne goûtera pas, qui ne sera pas terrorisé, parce qu'ils vont savoir, que l'heure du jugement est arrivée, et qu'est-ce que le texte dit? Ils veulent se cacher dans les trous de la terre. Pensez-vous que ça va réussir? Ils ne réussiront pas. La question, ça se termine, le chapitre 6, par une question. Qui peut subsister? Et là, il y en a une réponse. La réponse est donnée dans le chapitre 7. Ça dit, la réponse est donnée, et qui peut subsister? C'est tout simplement ceux qui sont marqués du sceau divin protecteur. Quand va arriver cette affaire-là, qui peut subsister? Il y a juste ceux qui sont marqués du sceau divin, ceux qui sont régénérés, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui vont être capables de passer à travers. Et là, on embarque dans le chapitre 7, et le chapitre 7, on a vu les sept. Il y a deux églises là-dedans qui sont présentées. Il y a l'église qui est sur la terre, elle, on peut l'appeler l'église militante. Pourquoi on l'appelle l'église militante? Parce qu'elle se bat, elle est en guerre. Nous, on est l'Église militante parce qu'on est sur la terre et qu'on continue de souffrir les attaques du malin, les attaques de toutes sortes pour notre foi. Donc, on est l'Église militante, on est sur la terre. Mais aussi, le même chapitre nous parle d'une autre Église qui est l'Église triomphante. Pourquoi on l'appelle triomphante? Parce que ces gens-là sont déjà au ciel. C'est les âmes qui sont mortes. Disons qu'on est chrétiens, nous autres. Là, je suis dans l'église militante. Mais si, en arrivant chez nous, je fais une crise cardiaque puis je meurs, je vais changer d'église. Je vais rester dans l'église, mais au lieu d'être dans l'église militante, je vais devenir dans l'église triomphante. Je vais être avec les saints qui sont déjà au ciel. Et le chapitre 7 parle des deux. Les versets 1 à 8 nous parlent de l'église militante et les versets 9 à 17 nous parlent de l'église triomphante. C'est un peu long comme introduction, mais ça permet de réviser un petit peu ce qu'on a vu. Donc, les versets, l'adoration pour la rédemption, on avait dit qu'il y avait trois idées. On va passer rapidement sur les deux premières parce qu'on les a vues la semaine dernière. Versets 9 et 10, c'était l'adoration pour la rédemption qui était initiée. On va juste les relire le verset et on ne fera pas trop de commentaires. Ensuite, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » On parlait de 144 000. La fameuse question, qui c'est ça, ces 144 000 personnes-là? Ben, après avoir fouillé, et on ne rentrera pas dans les détails, dans toute l'argumentation de ça, mais l'argumentation, c'est que c'est les saints, à la fois de l'Ancien et à la fois du Nouveau Testament, de toutes les époques. Donc, les 144 000, c'est les saints qui sont sur la terre, et les élus de Dieu, qui sont, on pourrait dire, encore sous la croix. Tandis que dans l'Église triomphante, c'est ceux qui sont au ciel, ceux qui sont devant le trône de Dieu et déjà dans l'éternité. Donc, le verset 9, très intéressant, il dit Ensuite, je regardais, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, qui se tenait devant le trône et devant l'agneau. Plusieurs choses qu'on peut observer là-dedans, l'Église triomphante, leur côté innombrable, leur côté universel, puis leur côté céleste sont déjà au ciel. Et ils sont vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Les palmes à la main, ça veut dire que c'est le signe de leur victoire finale. Ils ont traversé les grandes difficultés de la vie chrétienne et ils sont déjà en victoire finale. Et ils louent Dieu pourquoi? Verset 10, très important. Et ils criaient à grande voix. Les saints qui sont là au ciel, là, ils disent pas, le Seigneur nous a sauvés. Ils crient à grande voix. Ça veut dire que ils veulent que tout l'univers sache qu'est-ce qui s'est passé. Et là, et voici ce qu'ils disent. Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône, position de œuvre terminée et de souveraineté et de l'agneau. Le salut vient de Dieu. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et les versets 11 et 12, il se passe quelque chose d'intéressant parce qu'on parle d'imitation. Donc, l'initiation de l'adoration pour la rédemption vient de l'Église, mais elle est immédiatement imitée par les anges, l'ensemble de tous les êtres qui sont déjà dans le ciel. Voici ce que ça dit. Tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre animaux. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. L'adoration par les anges en disant... Moi, j'avais jamais remarqué ça, mais on va regarder un petit peu la raison. Pour il y a deux amen là-dedans. Des fois, on lit ça, mais on ne porte pas attention, pas en tout. Notre problème avec les Écritures, c'est souvent ça. On lit trop rapidement. On médite pas assez. En disant amen, ils adorèrent Dieu. Pour ça, ils ont dit amen. Et là, voici ce qu'ils disent après avoir dit le premier amen. La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. C'est les anges dans le ciel qui se joignent avec l'armée de ceux qui sont déjà. Et là, voici, ils nomment sept choses. Est-ce que Dieu a uniquement sept attributs? Il y a plus que ça, hein? Ben, les mots ont été choisis par le Saint-Esprit. Il faut croire qu'ils ont une importance. Et tout ce monde-là crie la même chose. La louange, la gloire, l'honneur, la grâce, et c'est la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Autrement dit, le salut, il n'a pas commencé. Il a commencé dans l'éternité avant même que les êtres humains aient été choisis par Dieu au siècle des siècles, siècle en avant, et aussi les siècles à venir. Ils sont en train de louer Dieu avec tous ces sept attributs-là d'une façon parfaite en disant « Le salut, là, c'est lui et voici qu'est-ce qu'il mérite pour ça. » Et là, ils élèvent leur voix. C'est extraordinaire, ça, ce texte-là. Là. Il y a double « Amen ». Et la sept, il appelait ça la septuple louange. Donc, si vous comptez le nombre de choses qui sont mentionnées en parlant de la louange, la gloire, la grâce... Il y en a sept. Pourquoi sept? Parce que le sept, c'est le chiffre de la perfection. T'es en train de dire, les perfections de Dieu, on a le salut à cause de ça. Et aussi, la question du siècle des siècles fait référence à l'œuvre de Dieu trinitaire, mais dans l'éternité passée et future. On était rendu là. Il est long comme introduction, mais ça fait rien. C'était nécessaire. Donc, on arrive au verset 13 à 17. On les relit. Puis, un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe et ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, il y a la question des robes blanches. C'est intéressant de noter des robes blanches dans le sang de l'agneau. Si vous prenez une robe blanche, puis vous la mettez dans le sang, quelle couleur elle va sortir?
Rouge.
Rouge, hein? Ici, on parle de blanchir dans le sang de l'agneau. À quelque part, on parle d'un langage symbolique, on parle du langage du salut que Dieu a enlevé nos péchés par le sang. Et nos robes blanches, c'est le symbole que Dieu nous a donné, la robe de Jésus-Christ. C'est très intéressant. Alors, ici, il y a la question de l'identité. Il demande, c'est comme s'il demandait à Jean. Jean demande, c'est qui les robes blanches? Lui, il dit, tu sais. Tu sais. C'était pas évident. Il était pas en train de lui demander vraiment la question. C'était dans le but de l'emmener à réaliser que l'œuvre a été faite par Jésus pour l'ensemble de ceux qui sont loués. Versets 14 et 15. Et je lui dis, Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux venus de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe et l'ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Quand tu arrives, tu lis ça la première fois, blanchir des robes dans le sang. À quelque part, ça devrait nous emmener à une réflexion. Comment une robe qui est trempée dans le sang peut-elle nous rendre la robe elle-même blanche? Puis là, il leur dit, c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et ils le servent jour et nuit dans son temple et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Quand on parle de la grande tribulation, ici, il y a deux grandes écoles. Il y a ceux de, qu'on pourrait dire, les dispensationalistes, eux qui croient qu'à partir du chapitre 4, tout le reste de l'Apocalypse, c'est pas eux qui vont être enlevés. Nous, on n'adhère pas à cette... on pense que la grande tribulation, c'est les souffrances que les êtres humains et les saints vont avoir eu à traverser au cours des siècles. La grande tribulation, c'est eux qui sont sortis de cette grande tribulation-là. Ils ont passé à travers, même si certains ont été tués, ont devenu des martyrs, ils ont passé à travers à cause de Christ qui a permis qui passe à travers. Donc, la grande tribulation. Les robes lavées et blanchies. On a ici vraiment une expression un peu curieuse. Les robes sont lavées et blanchies dans le sang. Nous imaginons que si nous trempons des vêtements dans le sang, il se produira naturellement deux choses. Ils ne seront pas lavés. On parle de robes lavées. Et ils deviendront rouges. Selon notre gros bon sens, qui a du bon sens aussi. C'est Jésus qui a subi la colère divine du Père de façon substitutive pour ses élus. Et c'est Jésus qui a accompli à la perfection la loi morale et tous ses commandements. Qu'on a parlé au début, dans mon introduction, quand on parlait de 2 Corinthiens 5, 21. C'est ça. Jésus a accompli de façon substitutive pour ses élus. Il a reçu la punition à leur place. Il a accompli ce qu'il devait avoir comme obéissance face à son Père. S'il explique que le sang a lavé les péchés et que son obéissance substitutive a procuré aux élus une robe de justice d'une blancheur absolue, la justice de Christ. C'est le sang qui a blanchi notre robe. C'est Christ. Et on parle du sang de Christ, bien entendu, je pense qu'on parle de ses souffrances qu'il a subies à notre place. Ils sont, bien entendu, ils nous mentionnent où ils sont rendus, ils sont devant le trône. Donc, quand tu es rendu devant le trône, ça veut dire que tu es rendu à ta destination finale, et tu es rendu là, pas juste pour un bout de temps, tu es rendu là de façon définitive, irréversible et éternelle. Chose intéressante, ça nous dit aussi dans le verset 15 qu'ils servent Dieu jour et nuit. Au ciel, il va-t-il avoir encore du jour et de la nuit? Là? Je pense qu'il ne veut pas dire qu'il va y avoir du soleil, puis qu'on va se coucher, puis qu'on va dormir. C'est une adoration permanente. On ne sera plus fatigué, on n'aura plus besoin de se coucher. Donc, ils servent Dieu. Et quand on parle, très intéressant, la question de 15, de verset 15, quand il parle de « étendra son pavillon sur eux ». Un pavillon, c'est une tente. Il va étendre le pavillon sur qui? Sur eux. Si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, la fête des tabernacles, c'était quoi? C'était les Juifs qui se mettaient sous une tente, et c'est vraiment des choses qui parlaient du salut. La fête juive des tentes, ou la fête des tabernacles, c'était la dernière des trois grandes fêtes annuelles des Juifs, auquel tout Israélite se devait d'assister dans le lieu que Dieu avait choisi. Cette fête emprunta son nom à la coutume de séjourner dans des cabanes de feuillage pendant la célébration. Quand quelqu'un commence à faire le lien entre le symbolisme des fêtes juives et la réalisation du salut, là, ton esprit a fait « wow », parce que c'est ça que ça fait. Parce que quand on lit l'Ancien Testament, qu'on parle des anciennes fêtes juives, des fois on ne comprend pas le symbolisme de ce qui est en arrière de tout ça. Ça parle toujours de Christ, ça parle toujours du salut. Et plus on comprend ces choses-là, quand les choses arrivent et que la mention est faite dans d'autres passages, là on saisit. Quand ici le pavillon, il parle vraiment que Dieu va étendre sa tente. Et l'Ancien Testament, quand on parle de la fête des tabernacles, ça parlait de ça. Dieu qui était sa tente sur le peuple. Il fallait qu'il fasse cette fête-là une fois par année. C'était une fête de la récolte. Et ici, plus on comprend la symbolisme de ça, ils sont où ces gens-là? Ils sont dans la récolte. Ils sont dans la récolte des âmes. C'est d'une beauté à te faire pleurer. C'est vraiment... Les Écritures, c'est riche. Donc, à quelque part, cette fête-là, c'est la fête des tabernacles. On lui donna d'abord le nom de fête de la récolte, mais elle se devait en même temps rappeler le séjour au désert passé sous des tentes. Elle rappelait aussi la vie nomade à travers le désert dans toutes ses difficultés. Ça, c'est intéressant. Un des rituels de cette fête-là était de puiser de l'eau du puits de Siloé dans une cruche en or et de la verser dans le temple en mémoire de l'eau sortie du rocher dans le désert. OK? Apocalypse, verset 21, verset 3. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. » L'habitation, la tente, la... Il faut faire le lien. Le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et les versets 16 et 17 parlent du fait que quand ils vont être rendus au ciel, la libération de toutes leurs souffrances, de toutes leurs misères. On sait c'est quoi de la souffrance puis de la misère? Depuis qu'on est au monde, qu'on souffre, qu'on est dans la misère. À cause de quoi? À cause du péché. Mais quand on va être rendu là, c'est terminé. Ils n'auront plus faim. Ils n'auront plus soif. Le soleil ne frappera plus sur eux. Selon vous, ici, est-ce qu'on parle de soleil dans le sens du soleil physique qui nous fatiguera plus à cause de sa chaleur? Ou on parle d'un symbole, on parle du symbole qu'on n'aura plus de problème, ni aucune chaleur? Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera, les conduira aux sources des eaux vives. Et la dernière phrase est tellement belle. Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. On a-tu eu des larmes dans nos vies? Je ne sais pas si vous en avez eu. Moi, j'en ai eu. Je suis sûr que vous en avez eu, vous autres aussi. Et là, c'est fini les larmes. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de troubles. Alors, le verset 16 nous parle des quatre difficultés de la vie dans le désert. La faim, la soif, le soleil et la chaleur. Ces difficultés sont réelles à la fois, dans le monde physique et comme symbole spirituel. Jean 6, verset 35. Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » On parle de Christ, là. Pourquoi on n'aura pas faim? Parce que c'est lui qui est la nourriture. Pourquoi on n'aura pas soif? Parce que c'est lui qui est l'eau, l'eau de la vie. Alors le soleil, lui, quant à lui, peut symboliser l'attirance que les Israélites avaient pour toute forme d'idolâtrie et la chaleur des épreuves. Quand on parlait de l'épreuve tantôt, c'est vrai que ça nous semble comme ça serait de la chaleur, hein, une épreuve, c'est difficile à traverser. Psaume 23, verset 2 et verset 6. « Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. » Jean, chapitre 7, verset 37 à 39. « Le dernier est le grand jour de la fête. » On parle de quelle fête, là? Jésus se trouvait là, il s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. » Les sources d'eau représentent la source de la vie, car l'agneau, les rachetés, jouissent d'une communion sans interruption et sans fin avec le Père. Moi, c'est la note finale que j'aime vraiment beaucoup. Quand on parle de Dieu, si Dieu nous donnait la compréhension de la grandeur de sa personne, qui va s'abaisser pour venir essuyer nos petites larmes, il y a une tendresse extraordinaire dans ce verset-là. Dieu lui-même va enlever toutes les sources de nos problèmes. Dieu suivra toute l'âme de leurs yeux, de sorte qu'il ne restera plus qu'une joie et une gloire sans mélange, la communion la plus douce et la vie la plus riche et la plus abondante. Dieu est l'auteur de ce salut parfait. Trois applications, bien sûr, Le livre de l'Apocalypse est tellement riche qu'on pourrait avoir plus que trois applications. Qu'est-ce que c'est une application? C'est qu'une lecture où on entend un passage et Dieu nous parle à travers. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut qu'on change à partir de ce qu'on a écouté? Moi, je vois trois choses. La première application, la partie de l'Église qui est au ciel, ça, c'est l'Église triomphante. Par la grâce de Dieu, les croyants qui sont là sont innombrables. Ils sont composés d'hommes, de femmes et d'enfants, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation. Ils sont plus que victorieux. Ils savent que c'est par la grâce qu'ils ont pu persévérer dans les grandes difficultés et les épreuves de la vie terrestre. Ils ont pu vaincre les attaques de l'ennemi. Ils sont infiniment reconnaissants. Ils louent hautement l'auteur de leur salut, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Moi, ça fait 42 ans que je suis chrétien. Je peux vous dire une chose, j'en suis tellement pleinement convaincu que si Dieu lui-même ne m'avait conduit, protégé, fait en sorte que je persévère dans la foi, ça fait longtemps que j'aurais décollé. C'est ça que les saints au ciel se rendent compte. On a traversé des épreuves immenses, innombrables, mais tu as permis qu'on passe à travers. C'est pour ça qu'ils sont dans un état de louange comme ça. Et la deuxième application, une séance exaltée d'adoration et de louange se fait de concert avec les anges. C'est intéressant que la rédemption n'a pas uniquement la dimension humaine. Elle a la dimension de tous les êtres de Dieu. Imaginez-vous, les êtres de Dieu, les anges, regardent ça, ils sont émerveillés. On est des pécheurs, on mériterait l'enfer éternel. Et il nous a donné la vie éternelle. Tous savent que seul un Dieu parfait, tout puissant et sage, a pu compléter une œuvre d'une telle envergure. Seul Dieu est digne de recevoir les sept choses qui sont mentionnées, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force. Le salut trouve sa source dans l'éternité passée et continuera dans l'éternité future. Moi, il y a un mot là-dedans que j'aime beaucoup, c'est la gloire. La gloire de Dieu, c'est l'expression simultanée de tous ses attributs. Quand on va voir Dieu dans sa grandeur infinie et qu'on va voir simultanément, des fois on lit les Écritures, on voit la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Là, on va les tous les voir, mais de façon simultanée, ça va être extraordinairement grand. Pas pour rien que s'il crie à haute voix, le salut vient de notre Dieu et de l'agneau. Quand on va être au ciel, on va faire comme eux. On va se joindre à toute cette ce concert-là. Et la troisième idée, ceux qui sont vêtus de robes blanches, c'est qui? Les élus de Dieu, ont traversé la grande tribulation. Ce sont les chrétiens de toutes les époques qui sont demeurés fidèles et persévérants. Le bonheur éternel, la jouissance de la présence éternelle de Dieu et de l'agneau est maintenant leur partage. C'est maintenant l'adoration et le service divin. Qu'est-ce que le texte nous dit? Ils adorent et ils servent. Ils adorent et ils servent. Leurs misères sont terminées de façon définitive et irréversible. Ils sont dans la maison de Dieu et profitent pleinement de ses infinies bontés et tendresses. Que le Seigneur nous ouvre les yeux sur la grandeur de sa personne et la perfection de son salut par sa grâce. Pour sa gloire. Amen.